Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous retrouver en très 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 belle compagnie. Vous allez le voir, trois auteurs très très différentes et en même temps, il y a toutes sortes de similitudes dans une façon de se raconter, de nous raconter l'histoire de leurs héroïnes. Je vais vous les présenter en quelques mots. Sedef Esser voit le jour à Istanbul, en Turquie. Cette enfant star évolue devant les caméras de cinéma et sur les planches. Après une fac de lettres à l'université américaine d'Istanbul ou à des études au conservatoire de Paris, elle tourne sous l'œil de plusieurs cinéastes, dont Amos Gitai. Auteur de fiction, chroniqueuse télé et radio, elle voit ses pièces jouées et traduites dans différents pays. Sociétaire de la SACD ou du Parlement des écrivains francophones, elle travaille sur un gigantesque projet qui s'appelle Istanbulywood, un nom très original. Son premier roman, que certains d'entre vous ont déjà pu découvrir, s'appelle Trésor national aux éditions Lattès. Il nous conduit à la rencontre de, on dit Julia, parisienne d'adoption qui voit son passé turc lui revenir à la figure lors du coup d'état de 2016 et d'une demande spéciale de sa mère. Dès lors, ce pays natal qu'elle pensait avoir rejeté va la poursuivre et elle devra peut-être se réconcilier avec lui, mais surtout avec elle-même. À mes côtés également, Johanna Krejci, qui est née en 1984 à Paris, après un master en sciences politiques et un doctorat théâtral. Elle devient scénariste pour des œuvres d'animation, par exemple avec L'heure de l'ours. Alors qu'elle travaille toujours pour une société de production, Les Armateurs, où elle suit l'avancée de longs métrages et de séries d'animation, elle publie son premier roman, Avant elle, aux éditions Héloïse d'Ormesson. On s'y heurte au démon de Carmen, ce que cette enseignante affronte dans son quotidien de femme et de mère, mais aussi ce qu'elle va découvrir en lisant les carnets de son père, un réfugié argentin qui lui a caché un grand nombre de vérités. Enfin, nous avons également Maria Orban qui vient de Brașov en Roumanie. Elle est née en 1978 après des études de lettres à l'université de Transylvanie. Elle devient professeure de langue et de littérature roumaine dans sa ville natale. Outre la photographie qui est l'une de ses passions, elle écrit des scénarios pour lesquels elle a gagné un concours l'an dernier. Ses premiers textes figurent dans un volume de collection consacré aux jeunes auteurs, une anthologie de théâtre ou plusieurs revues. Elle n'est pas encore traduite en France, donc c'est vraiment un scoop de la découvrir, avec un livre que je vais sûrement mal prononcer qui s'appelle « Ouameni Mari ». J'essaye. Hein. Les grandes personnes aux éditions Nemira, qui nous présente Ruxandra Radu, professeur de lettres roumaine, qui va être soudainement confrontée à une demande de divorce de son mari. Comme si elle n'avait pas assez la poisse, elle va perdre sa carte d'identité, mais surtout tous ses repères, et être confrontée à plein de problèmes de famille. Elle devra dès lors apprendre à se relever. Enfin, nous avons Florica Curiol, qui sera notre interprète du jour. Bonjour à toutes les quatre, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ce qui vous relie avant tout, évidemment, c'est l'amour de l'écriture. Sedef, vous avez grandi dans le monde du cinéma, un monde qui dès lors nous raconte des histoires. À partir de quoi est-ce que vous êtes tourné vers la lecture, vers une autre façon de raconter des histoires ?
Très vite, je crois. Très vite, oui, en fait, la lecture a toujours fait partie de ma vie, je crois. Et donc, je ne saurais pas vous dire, ça a commencé avec des livres d'enfants et j'ai toujours lu. Et puis quand j'ai commencé le collège et lycée français d'Istanbul, en fait franco-turc, voilà, là aussi très vite j'ai voulu commencer à lire en français, et évidemment c'était les classiques que je comprenais certainement pas très bien à l'époque, à 10 ans, parce qu'on commence donc cet enseignement en français à l'âge de 10 ans, et puis ça ne m'a jamais quitté, je crois.
Johanna, dans le roman, vous remerciez à la toute fin votre mère, qui est une lectrice infatigable. Est-ce que c'est elle qui vous a transmis l'amour de la lecture et de la littérature ?
Alors, je dirais que mes deux parents m'ont transmis et le goût de la lecture et surtout le goût des histoires. Ma mère m'a beaucoup lu de livres lorsque j'étais petite, mais j'avais aussi le privilège d'avoir un papa qui m'inventait des histoires chaque fois avant que je m'endorme. Donc, je pense que ça a été... Voilà, à la source de ce désir de moi aussi raconter des histoires et de voilà, partager des émotions.
Maria, à l'instar de votre héroïne qui est prof de lettres, vous l'êtes aussi également. À partir de quand est-ce que la lecture, la littérature est devenue l'une de vos colonnes vertébrales ?
Descoperi lectura când eram mică. Nu a fost neapărat o dragoste la prima vedere, dar cumva a funcționat foarte bine ca inițial, ca mod de a alunga plictiseala.
J'ai découvert la lecture toute petite. Ce n'était pas un amour, un coup de foudre, mais ça a fonctionné quand même pour chasser la nuit.
Et c'est devenu un coup de foudre à partir de quand ?
Je ne sais pas si c'est un coup de foudre. C'est une nécessité. C'est un plaisir parfois. Et c'est un moyen d'être.
Hein?
Un moyen d'être. De, oui.
D'accord. Cédef, vous écrivez que si la vie est terne, il n'y a que les balivernes qui la rendent supportable. Est-ce que c'est pareil avec la littérature ? Est-ce qu'elle rend votre existence plus supportable ?
Oui, je pense que je suis beaucoup plus dans les fictions que dans la vie. C'est aussi le fait d'avoir été très vite, très jeune, enfin dès l'âge de 3 ans, avoir été actrice. Bon, je ne dis pas que mes parents étaient très conscients en faisant ça, mais en tout cas, il se trouve que j'ai grandi avec des adultes qui racontaient des histoires. Donc, j'ai l'impression de oui, rêver debout tout le temps. Et peut-être que je suis même plus reliée aux auteurs, aux fictions, qu'à la vraie vie. Mais bon, en même temps, la vraie vie est belle. Mais oui, je pense que pour répondre à votre question, oui, oui, tout à fait. Ça rend la vie supportable.
Johanna, le père de la narratrice, il s'imagine grand romancier pour faire rêver les gens et les protéger, je cite, de la saleté de la vie. Est-ce que vous percevez la littérature comme ça aussi ? Est-ce qu'elle peut nous sauver de certaines choses ?
J'aime croire que oui, bien sûr. La littérature nous fait tous voyager. On se découvre aussi, je pense, à travers les dilemmes de certains personnages. Et donc je dirais, en tout cas pour moi, que la littérature comme l'écriture sont une forme de refuge, mais aussi de voyage. Voilà.
Est-ce que, Maria, c'est également votre cas ? Est-ce que vous le percevez comme un refuge protecteur ? Et si oui, de quoi elle vous protège ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi une mise en danger de soi ?
La lecture ? Je crois que la lecture fonctionne comme un refuge. Je crois qu'elle dit quelque chose de chacun d'entre nous. La manière dans laquelle on écrit une histoire et la manière dans laquelle on l'a dit. On l'a dit. Ces manières disent quelque chose de chacun d'entre nous. Je crois que chaque personne, c'est une histoire en soi-même. Et la lecture peut fonctionner comme ça. Je sais que vous ne parlez pas de ça, mais c'est l'idée maintenant et je dois le dire. Je crois qu'on peut voir une personne et... la lecturer, la lire, parce ce qu'elle dit ou par ce qu'elle fait, par la manière dans laquelle elle parle, par exemple.
Cédé, vous mettez en exergue cette phrase de Toni Morrison, la prix Nobel, qui parle de cette maison étrange. Mais dites-moi pourquoi sa serrure correspond à ma clé. Vous êtes journaliste, dramaturge et traductrice. Pourquoi est-ce que vous avez trouvé aussi la clé romanesque pour vous exprimer? Pourquoi est-ce que l'écriture correspond pour vous aussi à une forme de maison?
Alors, je ne me sens pas du tout traductrice et journaliste. Je l'ai fait de temps en temps. J'ai écrit des chroniques pour un journal. C'était des chroniques culturelles et des billets d'humeur. Donc, ça faisait partie un peu du prolongement de cette activité d'écriture. Et traduction, je l'ai faite vraiment pour quelques livres, dont Charlotte Delbault, donc, que j'aime beaucoup. En fait, je me sens avant tout, quelqu'un qui raconte des histoires par tous les moyens, parce que j'écris pour le théâtre, la télévision, la radio, et le roman, j'ai un peu attendu, effectivement. Et peut-être parce que, bon, j'ai deux langues d'écriture, hein, le turc étant ma langue maternelle, peut-être qu'en français, j'avais du mal à me confronter à l'écriture romanesque, parce que, vous savez, le théâtre, enfin, quand on écrit un roman, c'est un objet fini, vous êtes responsable de chaque virgule, Johanna connaît ça aussi certainement, alors que quand on écrit pour le cinéma ou le théâtre, il y a une équipe qui arrive derrière pour que cette écriture devienne un spectacle ou un film, et une deuxième écriture se pose dessus. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais intimidée aussi par l'écriture d'un roman en français. Et puis pour revenir à cette merveilleuse phrase de Toni Morrison qui dit donc, je ne pourrais pas le dire exactement, là je ne veux pas lui abîmer sa phrase et le travail de sa traductrice, mais elle dit grosso modo, je vois une maison, elle est terne, elle n'a pas de lumière. Moi, la mienne, elle était plus lumineuse, plus belle. Mais dites-moi pourquoi la clé que j'ai correspond à cette maison. Et quand j'ai lu cette phrase, c'est vrai que j'ai été tellement... Enfin, je suis encore émue en le disant, parce que ça nous arrive à tous, en fait, de nous retrouver dans des situations qui ne nous correspondent pas, mais alors que c'est ça que nous sommes devenus. Et dans ce roman, je pense que ce roman résume, enfin, cette phrase de Toni Morrison, que j'aime beaucoup par ailleurs, résume vraiment mon roman.
Et est-ce que vous diriez dès lors que l'écriture est devenue pour vous une maison? Parce que votre héroïne, on va en parler évidemment, cherche aussi son identité, croit en avoir une, puis elle va être rattrapée. Est-ce que c'est vraiment une forme de maison pour vous?
Ah oui, c'est une maison, c'est une patrie, c'est tout, oui. C'est un pays. D'abord, j'ai deux langues, et puis je suis une très grande voyageuse. Je fais des... Bon, c'est pas très bon pour le climat, maintenant il faudra arrêter, mais j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, et la seule maison que j'habite, je suis sûre d'habiter. Bon, j'ai la chance d'avoir une famille aussi, mais voilà, enfin, des familles biologiques et choisies. Mais l'écriture, oui, bien sûr, la langue turque et la langue française. Et peut-être juste une toute petite
bien
chose
sûr.
Par rapport à cette histoire de comment les fictions nous protègent. Je me dis qu'en fait, raconter des histoires et lire des histoires, des pays ou des contrées lointaines en tout cas, nous rend forcément moins racistes, moins misogynes, moins homophobes, moins bêtes. Et c'est aussi comme ça que ça nous protège de la difficulté de vivre.
Je peux juste rebondir, pardon, sur la maison, parce que ça m'a fait penser à ce livre magnifique de Colm McCam qui s'intitule « Lettre à un jeune auteur », dans laquelle il file absolument la métaphore de la maison pour décrire le processus d'écriture du roman, depuis la structure jusqu'à chaque phrase. Et du coup, voilà, je trouve que ça fait vraiment écho à ce que tu disais. Voilà, petite parenthèse.
Et ça fait d'autant plus écho que vous avez choisi en exergue Gwenaëlle Aubry, qui parle aussi de cette métaphore de la maison, puisqu'elle écrit « Nous portons tous en nous une maison effondrée, ta chambre obscure, tu la connais, et puis à ce point d'interrogation, et ta pièce vide ». Est-ce que pour vous, l'écriture peut être aussi perçue comme ça, comme une forme de chambre obscure, mais plutôt au sens photographique du terme, de révélateur d'une pièce vide dans laquelle on peut la remplir de son imaginaire?
Oui, comme quoi je suis aussi obsédée par la maison, j'avais oublié cette phrase. Oui, absolument. Après, ce qui m'intéressait aussi dans l'image de la maison, c'est il y a ce qu'on voit en entrant, etc., qui saute aux yeux, et puis il y a ce qui est caché. Et moi, ce qui m'intéressait dans Un Voël, c'est précisément ces pièces cachées ou ces objets planqués dans un coin qu'on ne voit pas au premier coup d'œil et qui pourtant vont également modifier la lecture dont on parlait au départ. Donc c'était un peu le sens en effet de cette citation en exergue du livre.
Est-ce que c'est aussi une forme d'exorcisme pour vous que d'écrire ?
Un exorcisme, je sais pas. En revanche, un refuge, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le terme qui correspond le plus à mon sentiment lorsque j'écris. C'est à la fois un repli et en même temps un moyen d'être au contact du monde en posant certaines interrogations, en essayant de faire vivre des personnages qui sont pour moi énigmatiques et qui peuvent me faire penser à certaines personnes que j'ai pu rencontrer par ailleurs. C'est un moyen d'éprouver aussi certains dilemmes, certaines questions. Donc, c'est un laboratoire aussi. Il y a l'idée de refuge, mais il y a aussi l'idée d'expérimentation et donc de découverte et donc d'apprentissage. C'est-à-dire de même qu'on dit souvent que les personnages font un parcours et ne sont pas théoriquement les mêmes à la fin du récit qu'au début. Je pense que c'est un peu pareil pour l'auteur et c'est aussi ce qui me plaît dans le travail d'écriture. C'est que je ne suis pas la même personne entre le début du récit et la fin. J'y ai appris beaucoup grâce aux personnages et grâce aux recherches, grâce aux autres lectures et grâce aux dialogues, aux autres lectures. J'ai cette phrase en tête, c'était Bertrand Leclerc, un auteur... Non, j'ai le plaisir de suivre un atelier d'écriture qui disait « En écrivant, on dialogue toujours avec sa bibliothèque ». Et il y a un peu cette idée-là aussi, c'est qu'en fait, en écrivant, on est comme en dialogue avec d'autres auteurs, avec plein de fantômes, en fait. Donc, si je résume, il y a l'idée de refuge, il y a l'idée de laboratoire et il y a l'idée de dialogue avec des fantômes. Voilà, en gros.
Cette idée de transformation, on la retrouve également dans votre roman, Maria, puisque c'est une héroïne qui se transforme au fil des pages. Elle croit avoir un refuge et une maison très sûre et puis tout d'un coup, tout va s'effondrer. Est-ce que l'écriture, pour vous, est aussi une forme de transformation ? Est-ce que vous n'êtes pas la même, pour reprendre la métaphore de Johanna, au moment où vous commencez un premier roman et aujourd'hui ?
C'est vrai, c'est ce que Johanna a dit. J'ai senti moi aussi ce sentiment. Tout d'abord, je crois que l'écriture a fonctionné pour moi comme un moyen de organiser ce que je sentais, les sentiments, les frustrations. Je me rappelle que le premier texte en prose que j'avais écrit avait le sujet c'était sur les sentiments et sur les problèmes que j'avais vécu, oui. Mais puis, je crois que j'ai essayé de m'éloigner de cette manière de super personnelle et subjectif de rapporter tout à moi et de voir un peu le mécanisme de l'écriture et ce que je pourrais dire en plus
dites-le dans le micro peut-être
en se distanciant.
Vous en avez un à vous?
Donc, c'est celui le parcours.
Alors on le voit, votre héroïne est chargée par son psychologue d'imaginer, d'écrire une lettre à son père. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile pour elle de trouver ces mots-là, d'écrire cette lettre-là ?
C'est difficile parce que elle devient plus consciente de ce qu'elles sont pour son père. Et les sentiments ne sont pas... acceptable, je crois qu'on peut dire, acceptable pour tous. Et en les écrivant, elle devient, non, les sentiments respectifs deviennent réels, ont une forme à part.
Vos trois romans sont différents, mais le thème de la famille se retrouve au cœur des trois. Cédef, que ça nous plaise ou non, votre héroïne va réaliser qu'on vient tous d'une famille et d'un pays. Comment est-ce que vous diriez que les vôtres vous ont façonné? Et pourquoi est-ce impossible d'effacer son passé alors que l'héroïne aspire à cela?
La vraie mienne.
Famille ou pays, au choix.
Que dire de ça? Oui, c'est l'enfance, c'est le lieu, l'endroit où nous sommes faits. Donc, je ne sais pas quoi répondre à ça. Ça me semble comme une évidence, en fait. Par exemple, je peux vous dire comment ça s'est déclenché, cette écriture. En 2016, donc, il y a ce coup d'État raté en Turquie. Je vois ces images, les F-16 qui tournent sur la ville, les émeutes dans la ville. Il y a des choses monstrueuses qui se passent à Istanbul. Je suis tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis soudain, je me dis, ah, la Turquie est en train de changer, se transformer durablement. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, ça j'en suis sûre. Et ça, la Turquie, ça ne sera plus jamais pareil. Malheureusement, je ne me trompais pas, mais enfin bon, ce n'était pas non plus une prophétie. Tout le monde a vu ça. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je retourne à cette enfance que j'ai vécue. Donc il y a aussi des moments déclencheurs dans la vie qui font qu'à un moment donné, on a envie de travailler sur ce qu'on a été. Donc c'est peut-être comme ça que je pourrais répondre plus tôt.
Contrairement à vous, l'héroïne n'a aucune envie de retourner à ce passé-là. Elle a tenté de se réinventer. Pourquoi est-ce que finalement, c'est impossible d'effacer ses racines?
Parce que elles sont là, parce que voilà, un pommier ne fait pas des poires, donc parce que on est comme ça et on peut pas prétendre être un autre. Après, on continue bien sûr toute sa vie de se transformer, de se réinventer, d'être meilleur si possible, mais c'est profondément ancré. Donc elle, par contre, c'était plus quelque chose de scénaristique, si vous voulez, plus une élaboration romanesque, c'est-à-dire que je voulais que cet élément déclencheur vienne de l'extérieur plutôt que ça soit son envie d'aller vers cela. Donc j'ai mis, comme dans mon cas pour cette narratrice, ce coup d'État de 2016 qui fait qu'elle va se rappeler, mais aussi ce coup de fil de la mère qui est une grande diva donc du cinéma turc, qui va lui dire ben voilà, c'est bientôt fini pour moi, mais comme toutes les divas, elle est un peu mégalomane, elle va lui dire écoute, si je laisse ces incultes islamistes au ministère de la culture, ils vont mal organiser ma cérémonie funéraire, donc c'est moi qui organise tout avec mon cercueil au milieu du plateau en acajou, il y aura les comédiens qui vont passer dire des textes, des extraits de mes films qui vont être montrés sur scène. Donc, il faut que tu écrives quelque chose. Et c'était pour moi un moyen un peu théâtral d'ouvrir le récit. Mm-hmm.
Johanna, votre héroïne, elle doit se poser une autre question qui va lui sauter à la figure là aussi, malgré elle. C'est comment on se construit quand on découvre que finalement, toute sa vie familiale, toute son histoire familiale a été construite sur le silence, les non-dits et des mensonges.
C'est ce qui m'intéressait aussi dans ce livre et j'ai écouté pour l'écriture de nombreux témoignages et il y avait cette phrase d'un enfant qui a appris qu'il avait été volé qui disait c'est extrêmement difficile de reconstruire sa vie sur du vide. Et ça m'a beaucoup marquée. Là, on parlait d'héritage, c'est-à-dire que souvent, on a un héritage et on doit faire avec. Et là, en l'occurrence, on est face à une personne qui se rend compte que son héritage, en fait, n'est pas vraiment le sien, qu'il y en a un autre, qu'il va falloir le découvrir, essayer de se le réapproprier. Et voilà, je trouvais ça intéressant à explorer parce qu'en effet, Pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Maintenant, l'histoire qu'on a, on doit malgré tout toujours faire avec. Donc ça m'intéressait d'explorer ces paramètres-là.
Maria, que ce soit en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, votre héroïne, on dit Rukhsandra ou Rukhsandra.
Rukhsandra.
Rukhsandra, que ce soit en tant qu'enfant ou adulte, pourquoi est-ce qu'elle a tellement de mal de s'affranchir de ses parents qui sont ce qu'on peut appeler des parents défaillants ?
Oui. Rukhsandra était une fille timide. Elle a été élevée par une mère autoritaire. Et je crois que si on a des limites imposées par les autres et on est enfant, c'est plus difficile. Il y a deux manières peut-être, mais Rukhsandra a choisi celle de la solitude. Mais elle arrive à
rompre ou à casser
Les limites, peut-être
dépasser
les limites un peu tard, mais je crois que c'est bien pour elle aussi de cette manière parce qu'elle elle n'a pas d'autre, c'est sa manière d'être.
Jeanne a évoqué le mot d'héritage, on le retrouve également chez elle, chez votre héroïne, puisqu'elle fait partie d'une lignée de femmes. Les femmes sont très importantes, il y a plusieurs personnages très puissants dans cette famille. Qu'est-ce qui vous intéresse sur cette famille, ce lien matriarcal ?
Alors, oui, j'ai voulu parler de ça aussi parce que j'en ai un peu marre aussi de ces femmes du monde arabo-musulman qu'on montre toujours comme des victimes alors que voilà, l'histoire est pleine de femmes très puissantes. Et il y a une femme qui m'a inspirée depuis longtemps, c'est la première comédienne musulmane qui a décidé de monter sur scène alors que depuis l'Empire ottoman, enfin, les rôles de femmes étaient tenus soit par des hommes, soit par des femmes arméniennes ou grecques, alors qu'elle, elle a décidé de monter sur scène. Donc je m'en suis inspirée pour en faire la grand-mère. Donc elle, c'est une femme du début de siècle. Ensuite, la narratrice, j'ai donc la petite fille de cette femme, la première comédienne musulmane, j'ai voulu qu'elle ait mon âge exactement pour avoir exactement la même mémoire que j'ai, c'est-à-dire que dans les dédales de notre cerveau, il y a quand même des choses qui correspondent à des âges précis. Donc je voulais que ce personnage ait exactement le même âge que moi pour toutes ces raisons. Et puis la mère, donc cette diva dont je raconte l'histoire, est née en 1934. Et là aussi, j'ai choisi cette date parce que c'est la date à laquelle les femmes turques ont obtenu le droit de vote, 10 ans avant les Françaises d'ailleurs. Et je ne sais pas, j'avais peut-être envie de marquer ces choses-là. Et c'est une histoire, oui, profondément féminine. Après, les hommes sont là aussi. Évidemment, ce n'est pas du tout que des personnages négatifs. Il y a des personnages d'hommes qui sont dans le livre, qui sont des hommes bien. Voilà. Et puis, c'est une histoire d'amour aussi. L'amour, enfin, c'est aussi un roman d'amour. Hein. La grande affaire, c'est l'amour quand même.
Il y a des hommes bien, mais il y a aussi des bourreaux, parce que quand on déterre son histoire de famille, qu'on va gratouiller, on découvre parfois des fantômes cachés, des surprises. Qu'est-ce que ça lui fait de découvrir ce pan-là de cette histoire et de son identité ?
Je pense qu'il y a des moments où il y a des moments de compromis, de compromission dans la vie de chacun. Et voilà, en fait, à ces époques-là, où la Turquie, enfin, il y avait des vraies interruptions de la vie démocratique en Turquie, il y avait des moments où les artistes devaient vraiment faire avec, devaient s'arranger avec le régime. Sa mère s'est arrangée. Et puis aussi, elle est tombée, il faut le dire, elle est tombée amoureuse d'un homme qui était de l'autre bord du régime, en fait. C'était un homme de main de l'État. Mais c'est comme ça. voilà, ça fait partie des choses qu'elle doit affronter. Et donc, toute cette archéologie lui fait quelque chose. Et tout à l'heure, vous me posiez la question de ma vraie famille. En fait, c'est arrivé un peu comme ça aussi dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais tourné dans des films en étant petite fille. Et à un moment donné, après ce coup d'État, pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de regarder ces films. En 2016, donc j'avais déjà 50 ans. Et soudain, j'étais persuadée que c'était des bobines de 35 mm qui étaient dans des caves des producteurs. Et on m'a dit, mais non, tout est sur YouTube, regarde. Et à ce moment-là, je commence à regarder, je me vois comme une petite fille et je me rends compte que j'avais confondu des scènes de film et ma vraie enfance. Et parfois, j'avais confondu des scènes avec des comédiens qui jouaient mes parents en pensant que c'était une scène que j'avais vécue avec mes vrais parents. Et donc, voilà, quand le passé fait surface comme ça, évidemment, on est un peu désarmé par rapport à ça. Et je ne sais pas, en fait, je fais des digressions, mais ça fait partie aussi. Enfin, je reviens un peu à votre question d'avant, voilà.
La complexité d'un régime, elle est également au cœur du livre et de l'histoire qui va se tisser entre l'héroïne et son père. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans, dans cette ambiguïté dans l'histoire et dans un lien qui évolue de l'amour au dégoût ?
Alors, ce qui m'intéressait clairement, c'est la jeunesse du bourreau. Qu'est-ce qui fait qu'un individu bascule au nom de... Dans quel contexte ? Quel facteur ? C'est ce que j'avais vraiment envie d'explorer à travers cette grande histoire-là. C'est la raison pour laquelle on suit donc le personnage d'Ernesto, enfant jusqu'à un âge assez avancé, et qu'on lit donc son journal, donc vraiment le cœur de ses réflexions intimes. Et parallèlement, on a le regard de Carmen qui va permettre de livrer certains faits historiques, certaines dates, pour permettre au lecteur de se frayer un chemin au sein de ces éléments-là. L'écueil que je voulais absolument éviter, c'était évidemment la complaisance, la gratuité ou le jugement. Je voulais essayer de donner des faits, de donner un contexte et d'essayer de donner des grains de réflexion, voilà, pour qu'on puisse soi-même éveiller sa propre vigilance et essayer de comprendre l'inexplicable, mais en tout cas cette bascule de l'humain dans l'inhumain, qu'est-ce qui fait qu'un individu à un moment va être capable de suspendre son jugement, de transformer l'autre en objet au point de pouvoir donc le torturer. Ce sont tous ces aspects-là qui m'intéressaient. Donc plus que le régime en lui-même, c'est vraiment l'individu et cette problématique de l'humain et de l'inhumain que j'avais envie d'explorer à travers donc les carnets, le journal intime d'Ernesto et le regard de sa fille qui a grandi en France et qui a tout un appareil théorique qui est très distinct du sien.
Justement, ce lien entre l'humain et l'inhumain, il peut être très intéressant en tant qu'historien ou sociologue, mais là, quand on découvre que c'est son propre père, comment on ressent les choses ? Comment ça rejaillit sur sa propre identité ?
Alors, je n'en sais rien. Il y a autant de profils que d'histoires au pluriel. Carmen est une des histoires, une fictionnelle en tout cas, qui s'est imprégnée de témoignages que j'ai pu entendre. Il y a parmi les enfants qu'on a identifiés, parce que sur 500 enfants volés, il y en a seulement une centaine qui ont été identifiés. Ça veut dire qu'il y a dans le monde 400 personnes qui ne savent pas qu'elles sont des enfants volés de la dictature. Donc dans le cas de Carmen, le fait de savoir va être une forme de libération, de résilience possible. C'est le parti pris qui a été le mien. Mais il y a des personnes qui ont fait un déni, qui ont préféré refouler ce pan de l'histoire pour pouvoir continuer à vivre. Donc je ne sais pas. Je pense que c'est propre à chacun. En tout cas, Carmen est une proposition.
C'est aussi différemment, j'ai envie de dire, à un niveau beaucoup plus psychologique, le cas de votre héroïne, Maria, puisque les liens filiaux sont également explorés dans ce roman, que ce soit les liens mère-fille ou les liens fille avec son père. Qu'est-ce qui là aussi vous intéressait dans toute la complexité de ces liens-là à l'intérieur d'une cellule familiale où il y a une forme de violence, mais de violence très sournoise?
Bon, je vais essayer de, de répondre en roman à cette question. Oh, am fost interesată în primul rând de încercarea asta de a defini noțiunea de adult și ce înseamnă să fii adult și ce roluri îți asumi sau cât îți asumi din maturizarea asta pe care se presupune că o stăpânești. Donc, la 30 de ani.
Elle a été intéressée par ce que représente ce terme d'adulte, ce que représente un adulte, combien de temps ça prend après.
De unde știi că ești adult?
Et comment à 30 ans on peut savoir qu'on est adulte soi-même?
Cum poți să-ți asumi chestia asta? Cât de împăcat ești cu tine?
Comment on peut assumer ce problème, cette idée? Est-ce que on a trouvé la paix avec soi-même ou pas?
Am încercat de asemenea să creez un personaj care are tot timpul niște imagini idealizate datorită educației pe care o are, datorită mamei autoritare.
Donc elle a essayé de créer un personnage qui a des images un peu idéalisées, images idéal du père, de la mère, de l'éducation qu'elle avait reçue à travers la mère.
Și practic cu problema asta se confruntă și la 36 de ani, că ea crede că trebuie să fie cumva și nu e.
Et à 36 ans, c'est le problème auquel elle se confronte encore parce qu'elle croit qu'elle devrait être d'une certaine façon et ne l'est pas. Elle n'est pas conforme à cette idée.
Tot de la mamă mai vine sentimentul acela de rușine și de neconcordanță cu rolul pe care ar trebui să-l ai.
Sentiment de honte et de non-concordance avec de non-conformité avec la personne qu'elle devrait être vient aussi de la mère, c'est à cause de la mère. Il lui reproche souvent qu'elle s'habille pas comme une prof. La prof, je me permets de le dire parce que j'ai lu le roman en roumain. La prof dit: "Mais maman, mais tu crois que je peux que je j'enseignerai autrement tel roman si je suis en jean et pas en deux pièces comme toi?"
În plus, absența tatălui, cred că și asta o determină pe Roxandra să nu-și găsească, să nu aibă niște repere clare. Practic are niște repere autoritare, sau de o parte e autoritatea mamei și de cealaltă parte este absența și dezinteresul tatălui. Și
atunci Roxandra n-a pas de repères clairs parce que d'un côté il y a les repères d'autorité du côté de la mère qui lui vient de la mère et puis de l'autre côté elle n'en a pas parce que le père c'est un père alcoolique et alors Roxandra est un peu perdue.
C'est ce qu'on retrouve aussi chez vos trois héroïnes. Pour des raisons différentes, elles vont être un petit peu perdues, y compris à l'intérieur d'elles-mêmes. Sedef, qu'est-ce qui vous intéressait aussi dans la manière dont la violence d'un pays, la violence de son histoire peut surgir, peut déteindre sur la petite histoire des êtres qui la vivent?
Quand on a vécu des grands moments comme ça de l'histoire, c'est vrai que c'est difficile d'en faire abstraction et de. On vit avec cela à chaque moment, à chaque instant. Aujourd'hui, je vois par exemple, à chaque instant, on est. Un tout petit geste devient un geste de résistance parce qu'on veut être comme on est et rien que cela, c'est déjà un acte de courage dans certains pays. Et puis aussi, je voulais ouvrir le récit avec ces trois coups d'État, comme les trois coups au théâtre, en fait. Je voulais commencer par les trois moments qui ont vraiment marqué la vie de cette actrice, 1960, où elle est une jeune actrice qui commence à être comme ça très glamour. Elle descend d'une Cadillac au cinéma Majestic, dans la jeune République turque, où il y a la naissance de cet Istanbulywood, comme j'appelle ce cinéma qui a quand même produit 300 films par an et qui était vraiment dans tout le Moyen-Orient c'était suivi, hein, tous ces films s'exportaient beaucoup. Et ensuite en 1971, donc coup d'État, deuxième coup d'État, là où mon héroïne devient trésor national, comme le titre de mon roman, donc elle est le trésor national vivant. Titre qui n'existe pas en Turquie, hein, je l'ai inventé. En fait, j'ai fait en sorte que ça existe, comme au Japon et comme en Argentine, je crois d'ailleurs. Et en 1980, donc troisième coup d'État, encore un autre bouleversement dans la vie de l'actrice. Donc, en ouvrant déjà le roman par ces trois moments très importants de la grande histoire contemporaine turque, je donnais déjà les clés peut-être au lecteur français aussi de comprendre ce qu'elle avait traversé. Ensuite, il y a aussi une deuxième chose, c'est que comme c'est une comédienne c'est une actrice de cinéma qui joue dans ces navets de Istanbul Bollywood, mais c'est aussi une grande comédienne de théâtre qui se confronte aux grands personnages des auteurs grecs antiques, de Shakespeare, de Molière, donc et ses auteurs nous ont raconté aussi ces histoires-là. Donc, elle est aussi confrontée à ces grands sujets de l'humanité en les transcendant par l'art aussi. Donc, peut-être qu'elle est mieux armée, justement, que quelqu'un qui ne connaît pas tous ces récits.
Alors vous, a priori, vous ne connaissiez peut-être pas l'Argentine, en tout cas vous n'y êtes pas né, vous n'y avez pas grandi. Néanmoins, cette terre et la façon là aussi dont elle peut imprégner les êtres, voire même les salir complètement, se retrouve au cœur de ce livre. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, qui n'avez pas grandi sous une dictature ou dans un régime comme cela? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, d'explorer ces liens-là?
Alors je dirais que mon pays, lointain, indirect et hérité, c'est celui de la violence, donc de la violence en héritage. Mes grands-parents ont survécu à la Shoah, donc m'ont transmis ce bout de l'histoire avec des zones d'ombre aussi. Mais j'ai reçu leurs souffrances, leur silence, les non-dits. Et donc j'ai grandi avec une forme d'incompréhension. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ce détour par l'Argentine et par ce pan de l'histoire, voilà, m'a permis d'interroger tout ce qui m'obsédait. Et j'aime beaucoup, Maria, tu utilisais le terme de non-concordance. Je crois que ça me parle beaucoup et qu'en fait, il y a les personnages qui ont un sentiment de non-concordance, d'être multiples et qui donc se sentent instables, inadaptés. Mais je pense que c'est la même chose pour l'auteur en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'incompréhension, de non-concordance avec la réalité telle qu'elle se passe. Et ça déclenche l'écriture. Et donc, en l'occurrence, c'est cette inadaptation, cette incompréhension qui a influé sur cette histoire. Et donc, le pays un peu métaphorique serait, oui, celui de la violence et d'une volonté de comprendre. Et ensuite, ça m'a fait voyager vers l'Argentine.
Les auteurs roumains auxquels on pense, les grands classiques, explorent les traumas de leur histoire, explorent la vie de leur pays. Pourquoi est-ce que vous aviez envie, au contraire, de vous centrer sur les guerres intérieures, sur les effondrements intérieurs, d'être plus dans l'intime que dans la grande histoire?
Je crois que les traumas intérieurs sont tributaires aux traumas extérieurs. C'est vrai, je n'ai pas choisi, je n'ai pas voulu parler d'une manière explicite d'un régime, de régime communiste, par exemple. Mais j'ai préféré la manière intime, comme tu disais. Mais par exemple, Ruxandra est...
Et
le résultat d'une éducation tributaire au communisme. Sa mère, son père ont vécu et ont été élevés dans cette période, pendant cette période. Et tout le sentiment de honte, qu'elle ressent, vient de cette période, par exemple. On peut dire comme ça.
Qu'on retrouve aussi chez vous trois, c'est cette perte d'identité. À un moment donné, on croit tous avoir une identité en se disant que c'est quelque chose de très stable. Puis chacune de vos héroïnes va découvrir que ce n'est pas le cas. Celle de Maria, par exemple, elle perd ses papiers d'identité. C'est quand même très symbolique de perdre son identité intérieur aussi. Chez vous, SF, j'ai envie de dire qu'effectivement, c'est ce coup d'État, c'est la mère qui attend le discours funéraire le plus glamour de la Terre, qui fait que là aussi, votre héroïne va s'interroger finalement sur son identité de Turc, mais aussi son identité d'exilée. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème-là ?
Oui, ça va la faire revenir à ce qu'elle est, effectivement. C'est un moment... oui, la finitude, je pense que quand on est confronté à la finitude de ses parents, il y a forcément quelque chose qui remonte. Et pour moi, c'était effectivement cette Turquie d'hier, ce monde d'hier, cette chose qui disparaissait, exactement comme cette actrice qui est en train de mourir, qui incarnait la Turquie ancienne, la Turquie laïque, bien sûr, et ces vieux films dans lesquels elle a joué aussi, qui m'intéressaient, puisque quand je regarde effectivement ces vieux films des années 60, des années 70, des années 80, c'est pas pareil, mais jusque-là, on voit vraiment... c'est bien, non ? Ah. où on voit une Istanbul qui n'existe plus. Donc c'est aussi une transformation urbaine, c'est aussi une transformation de la société. Et donc c'est avec l'âge aussi qu'on voit ça. C'est-à-dire que cette actrice, pour moi, était la métaphore de cette Turquie, ce monde d'hier qui est en train de disparaître. Et elle est ramenée à ça, un peu malgré elle, effectivement.
Johanna, là aussi, on saisit cette héroïne qui, dès le départ, est une héroïne très fragile. C'est une femme qui s'effondre, c'est une femme qui se raccroche à l'alcool pour essayer de tenir debout malgré tout, et elle n'y arrive pas. Et finalement, c'est la chute par excellence qui est au cœur de ce livre, à savoir que les seules choses qu'elle pensait sûres, même son identité de « on a tout, après l'église, les hélicoptères », c'est pas les hélicoptères argentins, je vous rassure. On a justement cette héroïne qui s'écroule parce que son monde intérieur s'écroule en apprenant sa propre histoire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette femme qui chute et qui doit se relever sans cesse ?
Ce qui m'intéressait, ce sont les stratégies de survie, c'est-à-dire qu'au départ, le fait qu'elle soit borderline, qu'elle soit en ce qu'on appelle qu'elle ait des conduites à risque, telles qu'on les nomme, elle est en pleine stratégie de survie. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, la vérité atroce qu'elle va découvrir va paradoxalement peut-être lui permettre de mettre fin à ses stratégies de survie. Donc, pour moi, on va vers la lumière dans ce livre. On a l'impression qu'elle chute, mais en réalité, à mesure qu'elle découvre, qu'elle apprend, elle avance vers la lumière. Donc, je vois plus ça comme une remontée, du coup, paradoxalement, que comme une chute. Mais c'est le chemin de Carmen, en tout cas.
Il y a aussi ce thème de la chute qui est au cœur de votre livre, puisque tout s'effondre autour d'elle, mais surtout en elle, le tout en 24 heures, j'ai oublié de vous le préciser. Qu'est-ce qui là aussi vous intéresse et qu'est-ce qu'on apprend finalement de ces échecs ?
Je crois que Roxandra peut voir... une séparation peut entraîner des autres ou peut
les faire ressurgir du passé.
Je me réfère au divorce.
Ramener, oui, les ramener du passé.
Oui.
Vous voulez répondre en roumain ?
Oui.
Allez-y.
Je crois que tous les tous les empêchements de ces 24 heures l'aident à découvrir sa voix et avoir du courage pour dire ce qu'elle pense, ce qu'elle est.
Qui elle est aussi, qui est, finalement.
Oui, qui elle est.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Non.
D'accord.
Je pense qu'elle ne sait pas, en fait, exactement ce que vous attendez comme réponse d'elle. Parce que, bon, quand on ne connaît pas le roman, c'est difficile de poser aussi la question.
Qui... Bien sûr. Oui. Est-ce que je ne lis pas le roman? Je vous le précise tout de suite. Cédé, vous citez Colette, puisqu'il est question effectivement chez vos trois héroïnes de survie, comme le disait Johanna. Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. Ça signifie quoi pour votre héroïne et peut-être pour vous aussi, renaître?
Alors, je trouvais que le féminisme de Colette correspondait au féminisme de mon héroïne. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un féminisme activiste comme ça, mais elle est féministe parce qu'elle est, en fait. C'est la première femme actrice qui embrasse à l'écran. Elle se déshabille comme elle veut. Elle a des amants. Elle tourne les films qu'elle veut. Elle choisit ses rôles. Et ça, c'est un féminisme. Et quand on lui dit, bah, Colette, c'est une féministe de boudoir, eh bien, oui, peut-être, mais elle a écrit de très, très, très belles pages sur le féminisme, juste par ce qu'elle était aussi. Et puis, à un moment de sa vie, où elle est vraiment, elle traverse une très grande dépression, mais c'est pas juste psychologique, c'est aussi les conditions de l'histoire qui font qu'elle traverse une période très difficile. Et puis un jour, elle sort de sa chambre et elle cite Colette en disant ben, « Renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces » et hop, elle redémarre comme si de rien n'était. Et pareil pour sa mort, ça va être exactement la même chose. Elle est malade, elle est au fond de... Enfin, vraiment, elle est très malade, elle va bientôt mourir, mais elle met son rouge à lèvres et elle orchestre sa cérémonie funéraire. Donc c'est aussi la force de la diva qu'elle est. Parce que c'est une icône, parce que c'est une grande actrice, parce qu'elle est dans cette flamboyance, dans cette dinguerie, et elle l'assume, elle le revendique. Et j'aime bien en plus les personnages comme ça, parce que je trouve que c'est aussi une force c'est aussi la force que lui donne peut-être les héroïnes qu'elle a jouées, qu'elle a incarnées. Et le roman va sortir en allemand et mon éditeur allemand m'a dit « Trésor national, ça fait vraiment science sociale en allemand, je ne peux pas l'appeler comme ça ». Et il a choisi une phrase, ma maison d'édition allemande a choisi une phrase du livre et ils ont traduit ça. Je ne suis pas germanophone, je ne pourrais pas vous dire en allemand, mais c'est « Toutes les femmes qu'elle a incarnées ». C'est ça le titre du roman en allemand. Et je me dis en fait oui, ils ont eu raison parce que ça correspond bien à cette femme, parce qu'elle est multiple. Parce qu'elle est comédienne aussi, comme les auteurs sont multiples par les histoires. Ce que disait Johanna tout à l'heure, on n'est jamais la même personne au début d'un travail qu'à la fin. Bien sûr, on sort totalement transformé d'un livre et elle sort transformée de chacune des femmes qu'elle a incarnées.
Merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient également poser des questions à nos trois auteurs? Alors, il y a un micro qui va circuler, je pense. Et on a un sans fil.
Oui, ben tout d'abord, merci. J'ai beaucoup adoré Trésor national et Avant elle. Vous, je n'ai pas pu le lire encore. On attend la traduction. Mais si vous permettez, je voulais demander à Johanna, pourquoi l'Argentine? Vous auriez pu prendre n'importe quel autre pays dictature. Est-ce qu'il y a un lien avec votre histoire familiale ou personnelle? Ou un intérêt autre que... Merci.
Alors, le lien indirect est celui de ma proximité en âge avec les enfants volés, puisque je suis née en 84, donc je suis légèrement plus jeune. Et je pense que ma sidération face à la découverte de ce pan de l'histoire a été renforcée par le fait qu'il y avait une proximité inconsciente liée à l'âge qui m'a donné envie de faire un détour par cette histoire pour interroger les problématiques de violence. Et d'ailleurs, il me semble, Cédève, tout à l'heure, tu parlais de ton héroïne qui avait un âge similaire au tien. Et je crois aussi que lorsqu'on écrit un premier roman et qu'on est pétri de doutes, d'avoir un narrateur finalement qui n'est pas trop éloigné en âge de nous, ça donne un peu confiance aussi.
Une autre question parmi vous ?
Oui, une question pour Chouana aussi. Pourquoi les pères de Carmen viennent en France? Parce qu'en général, les militaires, ils sont restés en Argentine. Ils ne sont pas partis. Ce qui partait, c'était ce qui était persécuté par la par les militaires.
Oui, oui, de ce que j'ai pu lire, il y a aussi eu des exilés en France, et donc il en a fait partie. De même qu'il y a des enfants volés en France, et donc c'est voilà, par ce prisme-là que j'ai eu envie d'aborder l'histoire de Carmen. Ensuite, moi je ne suis pas spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Argentine, c'est pour ça que j'ai sollicité l'expertise d'un professeur d'histoire contemporaine qui s'appelle Olivier Compagnon, avec qui j'ai pu beaucoup dialoguer, etc., parce que, comme vous l'avez compris, n'ayant pas, moi, de proximité directe avec l'Argentine, j'avais vraiment le souci d'être juste dans ce qui pouvait être nommé, évoqué. Et donc, c'est passé notamment par un dialogue avec lui. Donc, a priori, c'était possible, en tout cas, et vraisemblable de l'imaginer ainsi.
Il y avait aussi une question à l'arrière.
Oui, c'était aussi pour Johanna. Vous parliez de témoins. Vous avez interrogé des témoins. C'était quel genre de témoins vous avez interrogé?
Alors, je n'ai pas interrogé de témoins. En fait, il y a beaucoup de matériel disponible en bibliothèque, sur Internet. La seule personne que j'ai rencontrée, qui était exilée, est donc un psychiatre argentin. J'ai dû raconter cette anecdote dans d'autres rencontres, mais je suis allée le voir pour lui poser plein de questions, avec l'envie d'écrire un récit sur les enfants volés. Et à l'issue de la consultation, il m'a regardée, il m'a dit « Mais en fait, ce qui vous intéresse, ce ne sont pas les enfants volés, c'est le bourreau. » Et donc il a eu le rôle véritable d'un dramaturge, et je suis ressortie à l'issue de ce rendez-vous voilà, avec un autre angle pour ce récit, mais c'est le autrement voilà, mais les sources en tout cas sont vraiment des films, j'ai eu aussi des témoignages audio, alors via Lina, enfin voilà, j'ai fait un travail de chercheur en fait, plus de rats de bibliothèque pour le coup que de sociologue de terrain ou d'anthropologue, voilà.
Peut-être encore d'autres questions pour Maria ou CDF? Ou pour Johanna encore? Ne vous gênez pas. Non? Eh bien, dans ce cas, si vous le souhaitez, nos trois auteurs vont se faire un plaisir de signer leur livre et de dialoguer avec vous encore, si vous le souhaitez. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à Florica pour son aide.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour votre attention. Marie.